Format radio, la radio de la formation. Les contes de fées, le rendez-vous scientifique de la formation. Les fées ne parlent pas, disait le mathématicien Henri Poincaré. Il nous faut donc les raconter pour leur donner vie, animer les fées. Étymologiquement parlant, raconter les fées, c'est enseigner, donner du sens aux signes. Mais raconter, c'est aussi s'amuser, muser ensemble, errer dans le labyrinthe des constructions de l'esprit, des théories. Ce que le physicien David Bohm appelait la danse de l'esprit. Raconter les faits scientifiques de la formation, c'est danser autour des faits de la formation. Seule notre espèce aime raconter des histoires, constatait le paléontologue Pascal Pic. Alors racontons des histoires. La science et la fiction font bon ménage pour interroger l'action et la formation. Notre épisode aujourd'hui s'intitule « La préhistoire de la formation ». Comment la formation était-elle avant l'histoire? Quand est née la formation? Quel est son fait générateur? Et qu'est-ce que nous apprend l'émergence de la formation qui soit utile encore aujourd'hui dans la perception de l'homme? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Bonjour. Je m'appelle Stéphane Diebold. La relation au savoir est particulière pour l'homme. Le savoir est le propre de l'homme. Dans l'évolution des espèces, si on retient la classification de Charles Linné en 1758 dans son fameux ouvrage « Système de la nature », l'homme est homo sapiens. L'aboutissement de l'odyssée de l'espèce, c'est l'homo sapiens, l'homme qui le genre homo et de l'espèce sapiens, l'homme qui sait. Donc la définition du savoir est ontologique à l'homme, la spécificité de l'homme, et c'est de savoir. Mais ça va plus loin. Et on s'en rend compte sur une vieille appellation dans l'histoire de la classification linnéenne, c'est l'homo sapiens sapiens. C'est-à-dire quand on a découvert l'homme de Néandertal, cette catégorie, on ne savait pas trop où la classer. Et donc, dans un premier temps, on l'a classé dans la partie des sapiens. Donc, on l'a appelé Homo sapiens néandertalis. L'homme de Néandertal, l'homo sapiens de Néandertal. Par opposition, mais il fallait bien redéfinir l'homme contemporain, on l'avait appelé l'homo sapiens sapiens, c'est-à-dire celui qui sait qu'il sait. Et donc c'est important de voir que dans la définition de l'homme, c'est pas simplement celui qui sait des choses, c'est celui qui a conscience de son savoir. Donc au sein de la formation, c'est d'être capable d'objectiver, de rendre conscient les savoirs. Et cette dimension est assez importante parce que cette relation savoir, on s'aperçoit qu'elle a eu toujours cours quand on parlait de l'homo sapiens. Eh bien, quand on a découvert l'homo sapiens, Ernst Haeckel, biologiste allemand, qui a été très important dans la diffusion des travaux de Charles Darwin en Allemagne, un pédagogue, quand on a découvert l'homme de Néandertal, il avait proposé de l'appeler Homo stupidus. Et donc les hommes qui soutenaient ça, des Allemands principalement, mais qui soutenaient sa classification, considéraient que ses partisans, c'était l'homo sapiens stupidus, c'est-à-dire celui qui sait peu, celui qui a un faible savoir par rapport effectivement à l'homo sapiens. Donc on voit bien que la relation au savoir est particulière. Alors, bien heureusement, l'Irlandais William King avait déposé 2 ans avant Homo Neanderthalensis, donc ce qui fait que la hiérarchie des dépôts a fait foi, mais il est fort à parier qu'aujourd'hui, si on avait dû garder Homo stupidus ou sapiens stupidus, puisque maintenant ça s'est détaché de l'homo sapiens, l'homme de Néandertal n'aurait pas gardé l'appellation homo stupidus, on lui aurait trouvé un autre nom pour éviter d'être stigmatisant. Et d'autant plus qu'on a aujourd'hui découvert, ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que l'homo sapiens avait une culture extraordinaire, avec une richesse passionnante, qu'on retrouve sur le musée de l'homme qui fait son exposition temporaire. Hein, donc si c'est, vous entendez ce podcast suffisamment tôt pour y aller, que vous avez la possibilité d'y aller, vous allez avoir toute la culture et la richesse culturelle de l'homme de Néandertal. Donc il est loin d'être stupide, mais on voit bien que cette relation savoir fonde la définition de l'homme en la matière. Et donc forcément, quand on s'aperçoit que l'homme est celui qui sait qu'il sait, eh bien se pose la question, c'est comment est-ce qu'on transmet ce savoir? Alors il y a deux grands courants hein, qu'on retrouve traditionnellement dans le monde de la formation. C'est ceux qui considèrent que c'est par l'apprentissage et ceux qui considèrent que c'est par la transmission. Il y a le très beau livre en 2014 de Marcel Gauchet, Transmettre, apprendre, hein, donc deux courants. Le premier courant qui consiste à dire ben, l'homme apprend et réapprend chaque fois, avec cette belle citation de Albert Camus, que Albert Camus avait énoncée lors de la remise au discours inaugural de son prix Nobel de littérature en 1957. Il disait: chaque génération se croit vouée à refaire le monde. Hein, c'est un peu l'idée, on redécouvre des choses avec effectivement un certain regard ou à force de chaque fois réinventer les choses, hein. Vous connaissez cette phrase du Guépard dans le film de Visconti, tout changer pour que rien ne change. Mais en tout cas, c'est apprendre chaque fois, réapprendre à chaque génération. Le deuxième courant, qui est un courant traditionnaliste, qui donne un pouvoir à la tradition par opposition à l'apprentissage personnel, c'est cette très belle phrase de Bernard de Chartres au XIIe siècle qui avait été repris en exergue d'un des ouvrages de Isaac Newton. Nous sommes comme des nains assis sur les épaules des géants. Si nous voyons plus de choses et plus loin qu'eux, ce n'est pas à cause de la perspicacité de notre vue, ni de notre grandeur. C'est parce que nous sommes élevés par eux. Et donc c'est très intéressant de voir que on ne réapprend pas à partir d'une feuille blanche, mais on s'inscrit dans une trajectoire intergénérationnelle. Et ce travail intergénérationnel est le propre de l'homme. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas dans d'autres espèces, une capacité d'apprentissage, que ce soit des connaissances ou des compétences, qui soit aussi forte que celle qu'on est dans l'espèce humaine. Et donc forcément, par définition, et surtout particulièrement dans cette définition de la préhistoire de la formation, il faut parler de la relation entre l'homme et l'animal, c'est-à-dire que dans cette évolution de l'espèce, quelle est la place de l'homme par rapport à l'animal? On en fera sur les cultures et les apprentissages spécifiques en éthologie et des animaux, avec les cultures animales. Mais ce qui est traditionnellement reconnu comme étant la référence, c'est ce que Charles Darwin disait dans son deuxième gros succès. Hein. Le premier, c'est L'origine des espèces, hein, qu'il a publié avec beaucoup de retard. Hein. Mais en 1871, eh bien, quand il a créé cet ouvrage qui est La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe, il écrit cette phrase qui est très très intéressante parce que c'est celle qui est dominante aujourd'hui. Si l'on constate, si considérable qu'elle soit, la différence entre l'esprit de l'homme, pardon, et celui des animaux les plus élevés, n'est certainement qu'une question de degré et non d'espèce. Autrement dit, il n'y a pas de différence de nature, mais une différence de degré. Tout ce qui est chez l'homme existait déjà chez les animaux, à des degrés différents, mais tout existait avant. Et donc ça, c'est particulièrement important dans notre définition, c'est que l'homme ne sort pas ex nihilo, hein, d'une création, c'est une évolution, hein, donc qui réinterroge aussi fortement sur ce qu'on va faire ensemble, sur pourquoi. Mais dans la relation au savoir, notre façon de penser les choses est particulière. Alors le savoir, la relation au savoir se fait en trois dimensions. On retiendra la définition d'Edgar Morin dans la méthode, cette analyse systémique, c'est qu'il y a une dimension des apprentissages qui est de la nature de l'homme, de l'espèce humaine. Donc l'homme apprend d'une certaine façon. En reposant la question, l'homme apprend-il des autres espèces? On s'aperçoit que les apprentissages inter-espèces sont particulièrement intéressants et donc est plus courant qu'on ne le pensait précédemment. Donc ça veut dire que l'homme a une façon d'apprendre. Hein. Il est fort peu probable que l'homme puisse apprendre comme une araignée. L'araignée a 8 yeux à peu près, hein, en moyenne, c'est-à-dire que bah, il voit le monde en 8 dimensions. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour un homme? On n'en sait rien, puisque nous on voit comme on voit, en 2-3 dimensions. Mais ça veut dire qu'on a d'autres façons d'apprendre. Et aujourd'hui, on commence à s'interroger sur comment est-ce que les autres apprennent. Et c'est particulièrement intéressant pour savoir comment nous, on apprend dans notre nature, en regardant les autres, les aliens, les gens qui nous sont étrangers, étymologiquement parlant, pour justement mieux apprendre à se connaître. C'est ce aussi le rôle de l'étranger, celui qui n'est pas comme nous. pour mieux nous connaître. Alors s'il existe une différence de nature dans les apprentissages, il y a des différences de culture, et la formation par définition est culturelle, on y reviendra avec la taxonomie. Et puis bien sûr, ces apprentissages, ces impressions qui sont naturelles, culturelles, ne font pas l'homme parce qu'il existe une spécificité, on parle de singularité, qui fait que les gens apprennent à leur façon. Et donc chacun peut apprendre avec des différences. Un peu comme s'il y avait une impression, une imprimante naturelle, une imprimante culturelle, et puis l'impression se fait de mauvaise façon. Et c'est dans ces marges-là que se crée quelque chose qui est de l'ordre de la singularité, qui fait parfois le génie de l'homme, qui fait en tout cas une spécificité, comme les animaux d'ailleurs, mais en tout cas c'est dans ce triptyque nature, culture, singularité que l'on va positionner cette définition de la préhistoire de la formation. Alors, bien évidemment, parler de ceci nécessite de positionner dès le départ quand débute la formation. Alors, quand débute la formation? Quelle est la date de démarrage? Cette date-là est une date qui fait foi. Dans ces cas-là, 1,8 million d'années, c'est la date aujourd'hui que l'on connaît de la formation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 1,8 million d'années pour qu'on crée la formation et qui nous permette aujourd'hui d'être ensemble sur ce podcast? Eh bien, tout simplement, c'est la naissance du silex biface. La naissance du silex biface a nécessité la naissance de la formation. Alors, pourquoi? Parce que l'outil qui était déjà déployé depuis bien longtemps, puisque la taille des chopeurs était connue depuis bien des années, puisque les premiers chopeurs qui ont été trouvés dans les gorges d'Olduvai en Tanzanie, c'est à peu près 2,7 millions d'années. Un million d'années avant, approximativement. Donc, qu'est-ce qui change avec le silex biface? Tout simplement parce que le silex biface est trop complexe. Et donc, la technicité nécessite d'avoir une autre façon de transmettre cette technicité de façon à ce qu'elle soit industrialisée. Et donc, on ne peut plus simplement montrer à quelqu'un et cette personne, en nous voyant faire, apprend. Ce qui est souvent le cas des apprentissages simples, on ne peut plus montrer, il faut expliquer. Voilà. C'est ce que Roger Gall, dans son Histoire d'éducation, très bon ouvrage, expliquait en disant « l'inventeur n'expliquait pas, il montrait voilà. ». Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une explication, et cette explication nécessite d'avoir un savoir objectivé, c'est-à-dire d'être capable de se dire qu'on a une médiation par un savoir institutionnalisé, ce qui fait qu'on sort de l'apprentissage que certains appellent le spontané, que d'autres appellent aussi dans la littérature, on retrouve apprentissage sur l'instant, l'apprentissage sur le faire, et donc qui reprend d'ailleurs une belle actualité avec justement les neurones miroirs, donc c'est vraiment une façon différente de les regarder, mais on a besoin à ce moment-là d'avoir quelqu'un qui nous explique parce que tout simplement, il faut choisir le bon percuteur, il faut un percuteur qui soit suffisamment tendre, mais pas trop pour qu'effectivement il puisse avoir un impact particulier. Par exemple, les bois de serre ont souvent été utilisés quand l'environnement le permettait. Il faut choisir le bon angle d'accroche justement pour la frappe, mais il faut choisir aussi la bonne puissance de façon à ce que la friabilité de la roche ne casse pas toute la pierre qu'on est en la matière. Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, on a besoin d'avoir, pour créer ces outils-là, on a besoin d'avoir un savoir qui doit être institutionnalisé pour justement être capable d'industrialiser les choses. C'est-à-dire que ce ne soit pas qu'une personne qui le fasse dans son coin, mais que ça puisse être développé et développer une technicité en la matière. Alors avec des silex bifaces qui sont particulièrement techniques, puisque certains ne font que 2-3 cm d'épaisseur, autrement dit l'épaisseur d'un smartphone. Donc pour arriver à un tel degré de maîtrise des outils, il faut être capable de s'entraîner et d'avoir un processus pédagogique pour l'apprendre. Autrement dit, la formation est née avec l'espèce humaine, avec l'espèce homo, avec le genre homo, puisque c'est l'homo habilis qui a permis, donc l'homo habilis, celui qui est habile de ses mains, qui a permis l'émergence de la formation. On dit que l'homo habilis est un homo faber, c'est-à-dire un homme artisan, ouvrier qui œuvre qui favorise l'ouvraison, artisan qui favorise les ars, hein, donc les outils, la maîtrise des outils. Donc ce qui fait le propre de l'homme, c'est de savoir-faire, et donc de savoir-faire autour de l'outil, ce qui est un peu classique dans la définition de l'homme. Et donc, en fait, comme le disait Jean Przybylski dans son Évolution humaine en 1942, il disait « Le savoir et le comportement sont étroitement liés et confondus dans le savoir-faire. » Autrement dit, la naissance de la formation est liée au faire. Et donc, c'est ce qui est important, non pas simplement le penser, mais le faire. Et donc, le savoir-faire est au cœur de la formation. Donc, on a déjà une date, on sait quand ça commence, 1,8 million d'années. Maintenant, il est une question importante à se poser. Si on reprend l'odyssée de l'espèce, hein, donc, qui nous a amené à l'Homo sapiens, on avait les gibbons le gibbon qui est un petit singe, hein, donc qui ressemble pas beaucoup à l'homme, et donc le premier préhumain qui est l'hominoïde, qui est principalement l'ouraoutan, donc on s'aperçoit qu'on se rapproche déjà davantage de la physionomie humaine, a donné naissance un peu plus tard aux gorilles, puis aux chimpanzés. Le gorille et le chimpanzé, alors le gorille c'est il y a 9 millions d'années et le chimpanzé c'était 7, pour d'ailleurs un peu plus tard donner naissance aux bonobos, hein, qui n'ont été découverts qu'en 1929. Donc autrement dit, les bonobos sont quand même une espèce qui est relativement récente parce qu'ils ont moins de 100 ans. Donc au Congo, ils ont été découverts. Et donc ces hominoïdes qui ont donné naissance aux hominides, gorilles, chimpanzés, ont donné naissance aux hominines, hein, donc ce sont les hommes d'Aurorin, l'Australopithèque, le singe du sud, et puis enfin, après les hominines, eh bien c'est l'Homo habilis, qui est effectivement la première espèce de la branche des homos. Et donc cette façon d'avoir pensé est particulière parce que on s'aperçoit que la façon de construire une odyssée n'est pas neutre, loin s'en faut. Pour deux raisons d'ailleurs, quand on prend l'origine avec Charles Linné, 1758, quand il a écrit cet ouvrage, il a parlé de l'homo troglodyte. C'est-à-dire qu'en fait, il parlait tout simplement du chimpanzé. C'est-à-dire que l'homme des cavernes, hein, cette expression qui est restée, qui était considéré comme des chimpanzés. Donc les chimpanzés, donc les singes, étaient considérés comme des hommes. Hein. Donc bien évidemment, après, on a subdivisé en fonction des découvertes. Mais ces classifications ne sont pas neutres parce que ça veut dire qu'en formation, si on donne à la dimension animale ou humaine, après, ça fait référence à des catégories qui amènent des comportements différents. Et si aujourd'hui l'éthologie ouvre énormément sur l'apprentissage des animaux et donc et pas le dressage, on peut considérer qu'avec René Descartes, on avait déjà une distinction qui était entre l'animal, étymologiquement parlant celui qui a une âme, mais considérer que l'animal en lui-même n'était qu'une machine, un automate. Donc finalement, quand on apprend à un animal, on va vers du dressage, on peut être violent, puisque finalement, on peut couper ou arracher une branche à un arbre, c'est pas gênant, même si aujourd'hui on parle d'intelligence des plantes, c'est pas gênant à l'époque, parce qu'effectivement, ce n'est que comme remonter une montre, c'est-à-dire que c'est une pierre, c'est sans âme, etc. Et aujourd'hui, on sort un peu de ces cadres-là, mais à l'époque, ça voulait dire que on était tuteur de la plante, on ne demande pas si effectivement l'arbre que l'on va tutorer, ça lui fait du bien, est-ce que c'est positif pour lui, est-ce qu'on tient compte de sa propre façon d'évoluer. Non, on lui dit, il doit grandir pour plein de raisons qui sont souvent liées à la production, mais dans ces cas-là, on va faire en sorte qu'il produise, et on ne tient pas compte des animaux, et donc de la souffrance animale, qui aujourd'hui, bien évidemment, n'est plus de mise, mais à l'époque, ce n'était pas inintéressant de penser en la matière. Alors, être capable de penser ces dimensions-là montre qu'on a une évolution qui, bien évidemment, ce sont les vainqueurs qui font l'histoire. Hein, donc, à la fin, toute cette évolution amène à l'homme, et donc forcément l'homme qui est particulier. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout simplement, c'est qu'est-ce qui a fait que l'homme ait pu avoir cette explosion de savoir, de connaissances et de compétences. Qu'est-ce qui fait, et dit différemment, qu'est-ce qui fait que les animaux, dans cette lignée, n'aient pas eu cette dimension-là. Pourquoi est-ce que les animaux n'ont pas connu cette évolution extraordinaire? On s'aperçoit que, quand on voit par exemple le neurobiologiste Terence Deacon, dit l'homme est un singe à 98%, c'est-à-dire génétiquement parlant, l'homme est à 98% comme le chimpanzé ou le gorille. Donc qu'est-ce qui fait que l'homme ait réussi à développer une connaissance, une compétence aussi importante, là où effectivement le chimpanzé n'a pas eu cette dimension-là? Donc la question est importante. Eh bien la réponse, autant n'est pas à la hauteur de la question, c'est qu'en fait on n'en sait rien. On ne sait pas pourquoi l'homme a développé, pas les autres. Alors bien évidemment, quand on ne sait pas, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des hypothèses, on essaie de voir ce que ça pourrait vouloir dire, mais aujourd'hui on n'a pas de réponse. Voilà. Et donc c'est là où les constructions de l'esprit, les danses de l'esprit, comme je le disais en introduction, ont toute leur importance, c'est que ça permet justement de s'interroger sur qu'est-ce qui pourrait avoir du sens, vu qu'on n'en sait rien. Donc on essaie de partir des faits, et de raconter les faits de façon à ce que les faits puissent avoir un sens particulier. Alors si on regarde les faits, traditionnellement, on retient trois composantes dans le désordre. C'est la descente du larynx, qu'on retrouve chez l'homme et qu'on ne retrouve pas chez l'animal. Donc ça, on le traitera sur le prochain épisode qui sera toujours sur la préhistoire de la formation. Donc on va voir un peu ce que ça peut vouloir dire. C'est la bipédie, et puis bien sûr c'est la taille du cerveau. Un des éléments majeurs qu'on peut constater, c'est qu'effectivement le cerveau de l'homme d'un seul coup s'est développé. C'est-à-dire s'est développé, et le lobe frontal, donc le front, s'est poussé en avant, et donc ça c'est quelque chose qu'on peut calculer. Le cerveau moyen d'un homme, c'est 1400 cm3, 4 fois plus qu'un chimpanzé. Voilà. Donc si on est à 98% génétiquement proche des chimpanzés, ben, on s'aperçoit qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Le cerveau s'est développé, et quand on voit dans l'évolution même de l'espèce et donc du genre homo, eh bien, dans ces cas-là, on s'aperçoit qu'on a un cerveau qui est de 20% plus important que l'homo erectus, hein, celui qu'on dit l'homme debout, celui qui s'est levé. Abusivement d'ailleurs, mais dans ces cas-là. Et donc, on a un cerveau 20% supérieur à l'homo erectus. Donc, le cerveau, c'est un fait que l'on a pu observer dans l'évolution de l'espèce. Et donc, l'analyse est assez simple. On se dit, comme dans le lobe frontal et préfrontal, dans ces cas-là, c'est là le siège du langage, c'est le siège de la conscience, c'est le siège de la planification. Et bien, dans ces cas-là, ces fonctions hautes de l'homme sont des fonctions qui se sont développées. Et c'est ça qui a permis à l'homme d'acquérir de plus en plus cette capacité d'acquérir à la fois de la connaissance et de la compétence. Cette façon de penser l'évolution, aujourd'hui, est tout de même en interrogation. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que si on prend les corvidés ont un cerveau qui est lisse, donc il n'y a pas eu cette excroissance du cerveau, et pourtant ils sont dotés aussi du langage avec le chant, de la conscience, ils ont conscience de ce qu'ils font, ils ont conscience d'eux-mêmes, ils sont planificateurs avec des stratégies de planification qu'on verra sur les cultures animales et les apprentissages animaux qui sont particulièrement intéressants. Donc ça veut dire qu'effectivement on a en la matière, il n'y a pas eu ce développement particulier qui est le fait de prendre du volume. L'homme a pris du volume là où les corvidés, par exemple, ne sont pas les seuls, n'ont pas pris de volume et pourtant ont développé ces activités. Alors bien évidemment, ils les développent moins que l'homme, et donc on revient à notre définition de Charles Darwin. On voit bien que c'est une différence de nature et d'espèce, mais ça veut dire qu'en fait, on a choisi un développement qui est un peu particulier, mais qui n'est pas le seul. Voilà. Alors si on reprend le deuxième élément qu'on va développer, qui est celui de la bipédie, qui pendant longtemps a été celui qui était dominant, l'histoire était assez simple, l'homme est descendu de l'arbre parce que l'environnement a muté, donc ça veut dire que la savane est arrivée face à la forêt, parce que Rift Valley, parce que justement changement climatique, donc l'environnement s'est adapté, donc l'homme étant dans la savane, étant moins d'arbres dans ces cas-là, il s'est positionné debout, autrement dit la boîte crânienne s'est positionnée différemment sur la colonne vertébrale, permettant un meilleur développement, et ce potentiel d'oxygénation par exemple a permis justement le développement du cerveau. Donc ça a permis de voir ce qu'on a pu voir, mais ça veut dire aussi, ceci a permis aussi de changer les comportements par exemple alimentaires, l'homme mangeant moins d'herbes, étant moins herbivore et variant plus sa nourriture, a fait en sorte que ses muscles, par exemple de mâchoire, qui pour les herbivores sont très importants parce que c'est leur façon de manger, dans ces cas-là, le sont beaucoup moins pour les carnivores. Et donc, ça veut dire que les muscles de la mâchoire se sont réduits, se sont résorbés, libérant ce qui est au-dessus de la mâchoire, donc le cerveau. Donc, tout ceci aurait concouru au fait de dire que la position debout, le changement d'environnement fait que l'homme a pu muter de cette façon-là. Alors ça, c'était l'hypothèse qui a été dominante pendant très longtemps, et qui l'est aujourd'hui encore pour beaucoup, mais avec des questionnements qui ne sont pas inintéressants, c'est-à-dire que si effectivement c'est dans cette dimension-là qu'on a pu voir une évolution de l'homme, force est de constater c'est que le même environnement qui a muté pour d'autres espèces animales n'a pas amené ces mêmes mutations. Donc, qu'est-ce qui fait que l'homme, d'un seul coup, et on reprend donc la question de base, qu'est-ce qui fait que l'homme ait pu développer autant de connaissances et de compétences par rapport aux autres animaux, et donc l'environnement ne permet pas d'analyser ça suffisamment. Ça ne peut pas être le seul argument, en tout cas, puisque les autres qui ont connu un changement d'environnement de même situation n'ont pas connu ces évolutions majeures en la matière. Donc, pourquoi pour l'homme, dit différemment, si on reposait la même question, pourquoi pour l'homme et pas pour les autres? Et puis, avec une remarque particulièrement sur la bipédie étant une fonction qui s'est développée il y a 4 millions d'années, on s'aperçoit que si la bipédie s'est développée, l'homme d'Aurorin qui a été... c'est un hominide hein, au Kenya, découvert en l'an 2000, hein, donc c'est encore assez récent dans l'histoire, bien sûr, de l'espèce. Et donc, on s'aperçoit qu'en 2008, dans le magazine Science, en mars 2008, on s'aperçoit qu'il disait « La démarche d'Aurorin s'appropriait plus de celle de l'homme moderne que celle de l'Australopithèque. » Autrement dit, l'homme d'Aurorin, utilisait la bipédie. Donc ça pose la question aussi de se dire, c'est que si la bipédie avait permis le développement de... parce que la position debout régulière permettait justement le développement du cerveau, donc des connaissances, des hautes fonctions, pourquoi l'homme d'Aurorin, qui était avant l'Australopithèque, n'a pas développé son cerveau de la même façon? Pourquoi est-ce qu'ensuite il n'y a pas eu de linéarité? C'est-à-dire que l'homme d'Aurorin, a marché, mais il n'a pas développé son cerveau, puis finalement, il n'a plus marché. Donc, il n'y a pas tant un besoin forcément que ça de cette dimension. Donc, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple que ça comme questionnement et qu'en tout cas, on ne peut pas dire qu'il y ait un seul déterminant qui expliquerait cette montée en puissance de la connaissance et des compétences qui est extraordinaire pour l'homme, hein. C'est-à-dire au sens étymologique, hein, extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. En tout cas pour l'homme, c'est ce qu'on retrouve énormément. Donc on ne sait pas bien pourquoi, mais on s'aperçoit que de plus en plus, de par ce qu'on trouve, de par les fouilles qu'on a, on s'aperçoit qu'on progresse dans la connaissance, et on progresse même encore aujourd'hui, puisqu'on découvre énormément de choses en la matière. Hein. Je vous rappelle que on a découvert très récemment sur... par exemple, Jebel Irhoun, par exemple, qui est au Maroc. On a fait de très très grandes découvertes sur l'Homo sapiens, donc il y a encore énormément de choses à découvrir. Avec cette spécificité un peu, c'est qu'on va chercher là où on pense. Donc on voit bien que la pensée détermine aussi ce qu'on fait. C'est comme on pensait qu'il y avait autour de la Rift Valley, donc de l'Est africain. Donc on cherchait plutôt dans l'Est africain des choses. Après, petit à petit, on a appris à aller chercher ailleurs. Et donc, petit à petit, on va dans des territoires sur lesquels on n'allait pas. Et la connaissance, qui est très embryonnaire, même si on connaît beaucoup de choses, est aujourd'hui sujet à énormément d'évolution parce qu'on ne sait pas grand-chose. Comme disait Socrate, on sait qu'on ne sait pas et c'est déjà beaucoup. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette explosion, pour poursuivre un peu notre cheminement de cet épisode, qu'est-ce qui s'est passé dans l'explosion de connaissances et de compétences? Eh bien, une des solutions est à rechercher chez Jane Goodall, qui est une éthologue qui est extraordinaire, qui a changé la culture animale, donc qui a beaucoup œuvré en Tanzanie par rapport aux chimpanzés. Elle a changé complètement la nature, c'est une révolutionnaire de la connaissance, toujours vivante d'ailleurs. Elle avait constaté une chose assez particulière, c'est que le chimpanzé n'était pas très habile de ses mains. Et donc, force est de constater que lorsqu'il jetait des pierres sur des animaux, avec une volonté a priori affichée de les atteindre, il les atteignait qu'assez peu. Hein. Donc, ça veut dire que sur 44 objets jetés à des animaux qui sont à moins de 2 mètres, donc atteignables, finalement, les singes n'en atteignaient que 5. 5 sur 44, c'est assez modeste. Donc, parti de cette idée-là, le cognitiviste Peter Gardenfers, dans son très bel ouvrage « C'est comment l'homo est devenu sapiens » en 2007, expliquait justement, c'était la raison pour laquelle le singe, le chimpanzé particulièrement, ne pouvait pas jouer aux fléchettes. Voilà. Donc, j'aime bien cet aphorisme. Alors, pourquoi il explique ça? Eh bien, tout simplement par le temps de circulation de l'information. Si on prend entre le muscle qui fait une action et le cerveau qui pilote l'action, le temps de circulation de l'information, normalement, est de 200 à 450 millisecondes. Alors, comme ça ne parle pas énormément, on peut considérer que pour un coureur de 100 mètres, ça permet de faire 2 à 5 mètres de plus. Donc, autrement dire, le temps de circulation de l'information entre le geste et la pensée, et on y reviendra sur d'autres épisodes, est très long. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour réajuster si le temps est aussi long et avoir présent à l'esprit face aux situations particulières? Eh bien, la seule façon de faire, c'est d'avoir un simulateur, d'être capable d'anticiper les conséquences du geste. Et donc, si on prend un simulateur dans le cas du cerveau et du bras, si on prend un simulateur, on s'aperçoit que le temps de circulation de l'information est de 70 millisecondes. Autrement dit, par rapport aux 200 ou 450 millisecondes, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, on réduit énormément le temps et donc on permet de s'ajuster plus précisément et surtout d'anticiper ces ajustements de façon beaucoup plus précise. Donc le simulateur a permis justement à l'homme de jouer aux fléchettes, déjà, c'est un premier atout non négligeable pour ceux qui sont amateurs de fléchettes, mais ça veut dire aussi que ça a permis à l'homme d'anticiper ce qui allait se passer. Et donc cette faculté qui est assez particulière chez l'homme, que Lionel Nakache, le neuroscientifique de talent, appelle le futur du présent. C'est-à-dire que ce simulateur, le futur du présent, permet justement de s'adapter à son environnement. Eh bien, avec un exemple très simple, le cerveau est toujours en action, hein, il est toujours en activité, etc. Et puis, il est toujours en train de simuler les choses. Et donc, si on prend un bruit régulier, si on prend un bruit qui est régulier, ce bruit régulier, la première fois que le cerveau l'entend, il se met en action avec une vraie activité qu'on peut suivre. Dans ces cas-là, on s'aperçoit que l'activité est intense. Au deuxième moment, le même bruit est une activité cérébrale qui est beaucoup moins forte. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'activité cérébrale ne soit plus présente, quasiment plus présente. Donc ce simulateur se dit, je fais des simulations qui sont vérifiées, donc ce n'est pas la peine de recalculer, donc ça veut dire que ça marche comme ça. La preuve en est, c'est que si on arrête le bruit, alors dans ces cas-là, on retrouve la même activité qu'au début. C'est-à-dire que dans ces cas-là, on se dit qu'est-ce qui se passe? Et donc on resimule tous ces environnements. Autrement dit, ce qui est très intéressant, c'est que le cerveau humain est un cerveau qui anticipe tout ce qui va se passer, les conséquences de ce qui va se passer. Et ce cerveau humain est très utile parce que ça va nous permettre de créer des routines. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le cerveau humain prend énormément d'énergie, prend énormément d'oxygène sur l'ensemble de l'activité humaine. Et donc, ça veut dire qu'il faut l'économiser. Et donc, pour éviter ce qu'on appellerait aujourd'hui un burn-out, d'être toujours en veille, etc., on crée des routines qui permettent justement de se dire, on fait comme d'habitude. Et donc, comme je connais cette habitude-là, dans ces cas-là, je travaille en sérénité, je travaille en automatisme. Et donc, c'est tout dans l'apprentissage et la formation, c'est toute l'activité entre premier élément, la routine, et bien sûr, à un certain moment, créer de l'attention, de l'éveil, et avoir trop d'éveil, finalement, on épuise les capacités d'apprentissage des gens. Donc, il faut trouver le bon arbitrage entre routine et événements dans les formations. Hein, on y reviendra sur les pédagogies, parce que c'est particulièrement intéressant. Donc, ce qui est aussi dans cette dimension-là, ce qui introduit la dimension souvent qu'on retrouve un peu classique, Même s'il y a des courants très intéressants qui remettent en cause cette distinction, la sensation, c'est ce qui est considéré comme ce qui vient spontanément, sans analyse. Et puis, bien sûr, la sensation est majoritairement à mettre en opposition avec la perception, c'est-à-dire, en fait, quel est le sens que je donne à cette sensation. C'est chaud, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est agréable? Ben, ça dépend de plein de paramètres, ça dépend aussi de la façon dont moi je vois les choses et donc de la façon dont je suis prêt à ressentir les choses. Et donc à partir de là, on voit bien qu'il existe quelque chose de particulièrement intéressant, c'est ce qu'on appelle les mondes intérieurs. Et de la façon dont je range, on a parlé de la taxonomie, de la façon dont je range mes affaires, eh bien je serai plus sensible à certaines choses qu'à d'autres. Voilà. Et cette notion de monde intérieur est particulièrement intéressante en formation. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle n'est pas donnée à tout le monde. Et quand on faisait la distinction entre l'homme et l'animal, ben, certains animaux sont dotés, bien sûr, de ces mondes intérieurs. On peut penser aux chats, aux chiens, etc. Mais d'autres ne le sont pas. Et donc, quand on prend par exemple le serpent, le serpent n'est pas doté de ce monde intérieur, ce que Jean Piaget disait en la permanence de l'objet. C'est-à-dire que comme on est dans la prédiction, un simulateur, on fait l'hypothèse que ce que je ne vois pas peut exister. Voilà. C'est une compétence que certains n'ont pas. Par exemple, autrement dit, le chat quand il chasse. Le chat se retrouve dans la situation où si la souris rentre dans un trou de souris, dans ces cas-là, il va se dire, il est rentré dans ce trou-là, logiquement, à un moment, il va en ressortir, je vais me mettre un peu à distance pour pas l'effrayer, je vais le laisser sortir et je vais profiter du chat à ce moment-là quand il sera sorti. Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, on est dans une situation où le chat anticipe, fait l'hypothèse de la permanence de l'objet. Quand on prend le serpent par exemple, le serpent qui n'est pas doté de cette fonction va mordre sa proie, l'ayant mordu finalement grâce à ses capteurs de chaleur, grâce à son odorat, grâce à sa vue, il va être capable de voir sa proie, de se dire voilà par où elle est passée, mais si au bout d'un moment il n'a plus cette capacité, il abandonnera la chasse parce qu'en fait il n'est pas capable d'anticiper et de prévoir cette dimension-là. Tout simplement parce qu'il n'a pas la permanence de l'objet. Donc ça veut dire que cette capacité de simulateur d'anticipation, de développement de mon intérieur est une spécificité propre à l'homme, non pas en nature, comme on l'a vu, mais avec Charles Darwin, mais en espèce, c'est-à-dire que porter à un tel niveau, c'est une des spécificités de l'homme. Et comme ce qu'on appelle les fonctions secondaires, que sont les simulateurs, sont beaucoup sur le néocortex, donc beaucoup sur le lobe frontal, dans ces cas-là, par rapport aux sensations qui sont beaucoup dans les zones primaires, dans ces cas-là, on peut considérer que c'est cette partie-là qui s'est développée, qui s'est particulièrement développée dans le cerveau humain, et qui a permis de. Et qui a permis justement à l'homme d'avoir cette capacité de développer de la connaissance et de la compétence dans une telle dimension. Alors cette dimension effectivement de monde intérieur que l'on retrouve avec Fernando Pessoa, le poète qui parlait de voyage immobile, hein, cette dimension est particulièrement importante parce que par exemple ça explique, vous savez, cette façon de dire les apprentissages par essai-erreur, si on retire le simulateur, ça frise l'absurdité. C'est-à-dire que quand on s'aperçoit qu'il y a un trou, qu'il y a un ravin, l'apprentissage, je vais me jeter dans le ravin pour voir si effectivement c'est dangereux, est quelque chose d'assez étrange. Donc, bien évidemment, le simulateur va permettre à l'espèce de pas se mettre fin à ses jours. Donc, les expériences n'ont d'intérêt que si elles sont anticipées, si elles sont pensées en amont dans un cadre particulier. Et ce cadre particulier s'auto-entretient, c'est-à-dire que plus on développe de l'expérience, plus on l'apprend. C'est ce que disait Paul Valéry, plus je pense, plus je pense. Dans ces cas-là, et c'est ça qui permettrait justement le développement du monde intérieur, permettrait de penser cette spécificité humaine par rapport aux animaux, encore une fois, en termes de degré. Et donc ça veut dire qu'à partir de là, dans les apprentissages, c'est particulièrement intéressant d'analyser ces situations. Alors cette notion de simulateur est intéressante parce que ça a permis à l'homme de faire quoi au sein de la préhistoire? D'analyser plus vite les données, d'être capable d'anticiper, voire de créer des avenirs, voir ce que ça pourrait donner, de rêver les mondes, de développer des mondes qui n'existent pas encore. Et donc, ça lui permet à la fois de développer ce qu'on on considère que l'homme est une espèce ingénieure, c'est-à-dire qu'il change son environnement, au même titre que le sanglier avec les sous-bois, au même titre que les castors avec les rivières. Donc, c'est-à-dire qu'on leur donne une rivière, ils l'aménagent à leur façon, de façon à créer leur habitus. Et donc, ça leur permet de développer ce qui leur permet de s'adapter et d'adapter l'environnement. Mais aussi, l'homme s'adapte. Hein, vous avez pu voir en juin 2018, dans la revue La Recherche, il y avait un très bel article sur les plongeurs de Bajau en Indonésie, des nageurs exceptionnels qui ont l'habitude de vivre dans l'eau. Et ils ont été comparés à des cultivateurs de la même région. Et ça, on s'est aperçu qu'ils avaient une rate de 50% plus importante. L'équipe américano-danoise s'interrogeait en disant pourquoi est-ce que finalement ils ont augmenté leur rate de 50%. Bah, tout simplement parce que la rate permet, quand on est sous l'eau, de réoxygéner les globules rouges. Et donc ça permet de tenir plus longtemps sous l'eau. Et eux qui sont des nageurs émérites, eh bien, ça leur a permis, dans un premier temps, d'évoluer. Et puis dans un deuxième temps, de stocker cette évolution, c'est-à-dire faire en sorte que cette évolution passe de génération en génération. Et donc ça veut dire qu'on s'aperçoit que grâce à cette capacité, grâce à ce simulateur, grâce à cette capacité d'adaptation, de penser des environnements, d'anticiper ce qui peut arriver, l'homme a réussi à trouver une place et à occuper aujourd'hui la place première, puisque l'homme est en haut de la pyramide, dans le monde. Alors, et ça, c'est très important parce que la formation a un rôle essentiel dans ce domaine-là. Et donc, c'est ce qui lui a permis, à un moment, de s'entraîner. Le simulateur doit être mis en œuvre de façon à anticiper les conséquences. Alors, beaucoup de personnes disent dans des pédagogues que c'est le rôle du jeu. On reviendra particulièrement sur le jeu, mais qui permet justement de s'entraîner, de se dire quelles sont les conséquences qu'on a, sans avoir les conséquences réelles, mais des conséquences en simulateur. Alors, bien évidemment, les jeux en simulation sont propres au simulateur, mais on s'aperçoit que n'importe quel jeu permet de tester les règles, de tester la sociabilité, de tester sa façon de fonctionner, que ce soit consciemment ou inconsciemment, avec la formation. D'autres proposent aussi le rêve comme capacité aussi à s'entraîner, où on s'aperçoit que dans le rêve, on a la même activité cérébrale que dans une activité normale. Donc, ce qui fait qu'à partir de là, le rêve serait une façon de repenser, de remettre de l'ordre, de se réentraîner de façon libératoire, c'est-à-dire sans avoir la contrainte de l'environnement, c'est-à-dire uniquement sur les connaissances, ranger les connaissances quelque part dans son rêve, faire le tri. Et donc, ça permettrait justement de développer, d'anticiper des futurs, justement pour être capable à la fois de penser le monde, mais aussi d'apprendre le monde, c'est-à-dire de digérer toutes les informations que dans la journée on a et qu'on ne sait pas bien ranger en la matière, pour justement être capable de structurer sa pensée en termes de connaissances. Donc tous ces éléments-là, bien évidemment, la formation prend une place tout à fait importante, puisqu'on sait qu'on s'expérimente, on teste, mais on sait qu'on est sous le regard bienveillant d'un formateur, et donc ça permet justement de prendre avec soi, d'apprendre, de s'essayer jusqu'à ce qu'effectivement le geste, la connaissance, les automatismes apparaissent et que la routine puisse se développer, quels que soient les choix en la matière. Alors donc voilà à peu près ce qu'on pouvait dire sur une première sur un premier épisode. Sur ce premier épisode sur la préhistoire de la formation, j'aimerais soulever deux idées et terminer par deux idées de réflexion sur lesquelles il n'y a pas pour l'instant de matériaux, mais en tout cas ou sur lesquels je vous invite à réfléchir, quels que soient les matériaux que vous ayez. Alors, il existe bien des matériaux, mais à vous de vous faire votre propre idée. La première réflexion sur cette idée de simulateur, qui a été très importante dans la préhistoire de la formation, c'est le fait d'introduire la notion de pensée inconsciente. Et c'est pour ça que les neuroscientifiques font une différence entre le cerveau et la pensée. Le cerveau étant la matière, voilà. Et le simulateur est inconscient, donc ça veut dire qu'à partir de là, la pensée consciente qui est celle qui est le propre de la formation est une façon de structurer ses savoirs, mais il existe aussi la pensée inconsciente, qui est au moins aussi importante que la précédente. Donc, avec cette pensée inconsciente, on pose la question, parce que la formation est par définition consciente, parce que c'est des conventions sociales qui sont exprimées. Est-ce qu'on peut apprendre, si on reprend l'expression de Canal+, à l'insu de son plein gré? Et donc, la réponse est bien évidemment oui, on apprend tous à l'insu de notre plein gré. Mais ça veut dire, est-ce que finalement, ça n'amène pas une capacité de manipulation? Ce que les marxistes, à une certaine époque, disaient que la formation, c'était le bras armé du grand capital pour l'aliénation des foules, l'industrialisation du travail, de la façon dont le grand capital le pensait. Donc ça veut dire, est-ce que c'est quelque chose d'acceptable? Sachant qu'aujourd'hui, les neurosciences nous disent il existe un inconscient nouveau, donc il y a une façon de travailler avec eux. Est-ce que finalement, comment est-ce qu'on va articuler cette formation consciente et inconsciente? Est-ce qu'on peut consciemment penser l'inconscient? La réponse est oui, mais est-ce qu'en formation, on peut le faire? Sachant qu'il y a des enjeux politiques et sociaux qui sont importants, comment est-ce que ça peut s'articuler? Il y a un grand intérêt à penser l'inconscient dans la formation, parce que souvent c'est ce qui permet l'animation, par exemple, majoritairement. Mais ça veut dire que comment est-ce qu'on peut le penser? Comment est-ce qu'on peut l'écrire? Quelle grammaire on peut avoir en la matière? Donc ça, c'est particulièrement intéressant parce que c'est un levier de formation extraordinaire. Et puis un deuxième levier qui est très important en la matière, c'est le fait de dire qu'on parle de simulateur. Le cerveau humain, ce qui donnerait sa spécificité par rapport à l'animal, c'est qu'il a une capacité à avoir justement un cerveau qui anticipe plutôt bien l'environnement. Mais aujourd'hui, il existe des simulateurs qui sont extérieurs à la pensée humaine. Et comment est-ce qu'on articule la pensée avec l'intelligence artificielle et la pensée interne et externe? Sachant qu'aujourd'hui, la pensée externe avec l'intelligence artificielle est beaucoup plus performante que le simulateur naturel. Et donc, comment est-ce qu'on peut externaliser ces apprentissages? Est-ce que finalement, on peut penser l'apprenant augmenté? Au lieu que ce soit lui qui capitalise, est-ce qu'on peut le penser avec une prothèse de simulateur qui permettrait de lui donner des informations, et jusqu'à quel niveau, quelle interface homme-machine, et surtout, comment est-ce qu'on pense la symbiose entre ces deux composantes, qui est la machine. On posait la question de l'animal et de l'homme au début de ce podcast. On peut reposer la même question de l'homme et de la machine. Et donc, comment est-ce qu'on peut garder notre humanité, sachant que la machine est plus performante que nous, et ça va être de pire en pire. C'est-à-dire, comment on peut penser les choses? Comment est-ce qu'on peut faire progrès social de cette situation? Faut-il en faire progrès social? Tout le monde n'est pas complètement d'accord. Je vous invite à vous faire... Mais en tout cas, il y a un avantage énorme à pouvoir intégrer le simulateur externe à un simulateur interne avec une relation particulière. Voilà, donc ainsi s'achève justement cette premier épisode sur la préhistoire de la formation. Si vous avez bien aimé notre épisode, eh bien je vous invite à aller sur vos plateformes de podcast pour mettre des étoiles, tout simplement parce que ça va permettre d'être référencé sur ces plateformes. Donc ça veut dire que d'autres vont pouvoir suivre l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à prendre le lien pour le diffuser, de façon à ce que ça nous permettra de nous faire connaître. Donc merci à vous d'être ambassadeur des contes de fées dans format radio. Si vous avez des réactions, des envies, des questionnements, etc., on n'a pas forcément toutes les réponses, mais on peut s'engager en tout cas à vous entendre et essayer de vous en apporter. De toutes les façons, n'hésitez pas à aller sur la page LinkedIn de Format Radio. Dans ces cas-là, posez vos questions. Si vous avez des thématiques que vous aimeriez aborder, dans ces cas-là, ça sera avec plaisir qu'elles seront abordées. Dans ces cas-là, faites-vous plaisir et surtout faites-nous plaisir par vos commentaires, quels qu'ils soient. En tout cas, on apprécierait énormément vos remarques. Et puis enfin, si vous voulez nous soutenir financièrement, nous avons Patreon, Patreon/formatradio. Sur lesquels vous pouvez donner 1 euro, 2 euros, 3 euros, le prix d'un café. C'est-à-dire que si ça vous a plu, Vous pouvez le donner par épisode, ce qui fait que vous arrêtez quand vous voulez. C'est très simple à gérer. Et pour nous, ça nous permet de travailler davantage sur le nombre d'émissions, d'organiser techniquement effectivement la radio de façon à ce qu'elle puisse être, vous proposer une meilleure qualité chaque fois. Et puis avec, bien sûr, du marketing de façon à vous faire connaître, de façon à ce que ce soit diffusé. Format Radio est une radio qui est collaborative. Donc l'idée, c'est que ce soit diffusé au plus grand nombre. Elle est gratuite parce que c'est notre modèle économique. Donc on a besoin de vous. N'hésitez pas à vous engager même économiquement parce que pour nous, ça nous est utile. Et ça nous permet effectivement de nous encourager, de nous dire que finalement, tous ces éléments-là vont nous aider. Donc on compte sur vous. Et n'hésitez pas à nous faire progresser parce qu'on démarre et donc on aura besoin de progresser. Et donc grâce à vos remarques, on va pouvoir être au plus près de ce qui est à la fois de vous surprendre, mais aussi au plus près de vos attentes, de façon à vous apporter des éléments qui vous correspondent. En tout cas, merci beaucoup à tous. À très bientôt pour de nouvelles aventures dans les comptes de la formation. Merci beaucoup. Au revoir.